C'est là, c'est parti.
Écrire, un balado du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l'on parle d'écriture avec des auteurs et des autrices de la région qui, entre l'âge de 20 et 35 ans, ont su faire leur place dans le fabuleux monde de la littérature.
Je t'aime, Michel Marc.
Ah, je t'aime, Daniel.
Petite déclaration.
OK, attends un peu. OK.
Y a-tu du sexe encore?
Ah, ça, j'ai des choses à dire là-dessus.
Et on va recommencer nos bonjours.
Là, on suit pas les questions, c'est-tu correct?
Ouais, le livre, c'est un dispositif hypocrite parce qu'il cache tous les brouillons, tu sais.
Commence.
C'est ça, c'est comme une sorte de vocation. Là.
J'invite tous les jeunes qui nous écoutent à s'insurger contre le salariat.
Là, c'est parti de mon côté. Ça enregistre.
Auteur dramatique, poète et acteur, Danny Boudreau enseigne le jeu à l'École nationale de théâtre. À l'âge de 24 ans, il a remporté son premier prix littéraire au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son recueil de poésie intitulé « Voilà », paru en 2007. Michel-Marc Bouchard est dramaturge de réputation internationale. Ses pièces ont été produites dans une trentaine de pays et plusieurs d'entre elles ont fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Ayant reçu de nombreux prix prestigieux, Michel-Marc a même fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en 2015. Danny et Michel-Marc sont tous deux nés au Lac-Saint-Jean. Danny à Métabetchouan, Michel-Marc à Saint-Cœur-de-Marie. Au printemps dernier, ils se sont rencontrés dans le quartier mythique de Saint-Henri à Montréal, entre deux séances de travail. S'en est suivi un échange passionné sur l'écriture dramatique et sur les origines de leurs inspirations.
Bonjour, Michel-Marc Bouchard.
Bonjour, Danny Boudreau. Alors voilà, nous nous lançons dans cette aventure du balado.
Ouais.
On va se poser des questions.
Sous forme de dialogue, si on veut, non? Quand même.
Oui, j'espère.
Chacun, j'espère. Oui, c'est la base, n'est-ce pas? La base un peu du théâtre, un peu? Ou c'est le conflit en même temps, la base du théâtre, mais quand
non,
même.
On va y aller surtout sur le dialogue et pas trop sur le conflit. Sans ça, ça sera un peu difficile pour les auditeurs.
Non, en effet.
Chicane pendant... Quoique le théâtre n'est pas un univers de chicane, mais on s'entend que pour écrire du théâtre, il faut avoir une notion du conflit.
C'est ce que je voulais dire. Non? Tu me voles les mots de la bouche.
Alors, Dani, pourquoi l'écriture dramatique?
Moi, je viens de la poésie à la base. Donc, j'écrivais de la poésie, j'écrivais des poèmes dans le feuillet paroissial, des prières dans le feuillet paroissial. Puis ça a été mon accès, en fait, à l'écriture, parce que j'ai été beaucoup valorisé là-dedans. Puis petit à petit, on m'a référé des livres de poèmes, des recueils, etc. Et puis je me suis mis à écrire. J'avais vraiment la nécessité puis le désir de devenir comédien. Et puis je lisais beaucoup, je participais à beaucoup de micros ouverts comme poète, et puis vite, on m'a associé aussi au type de poète qui aime lire ses propres textes et qui...
Oui, parce que c'est pas obligatoire qu'un poète arrive à lire ses poèmes, parce qu'il y en a effectivement qui en font pratiquement un art.
Exact.
Alors qu'il y en a d'autres qui veulent pas les lire.
Non, c'est ça. Puis tu sais, il y en a qui ont un rapport à la poésie beaucoup plus intime, qui est tout à fait lié au rapport de lecture. Mais moi, c'était lié à une nécessité de dire vraiment à haute voix, puis d'éprouver dans mon corps le poème. Bon, ensuite de ça, je voulais être comédien. Je suis rentré à l'École nationale et de l'École nationale à Montréal. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, je voulais créer des conflits. Je voulais faire parler ces voix-là à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment lié à ça. Puis, je pense que pour moi, c'est comme une façon pour moi de... J'ai comme une fascination de la catastrophe, là, en général. Si pour moi, le théâtre, c'est une façon de faire vivre la catastrophe, puis de m'y préparer, si on veut.
Je dois rebondir sur le fait que tu disais que les poèmes, tes premiers poèmes, t'es publiés dans le feuillet paroissial.
Mm-hmm.
Ce qui fait que, parce qu'on vient quand même d'une région assez croyante, assez religieuse,
oui.
Et encore récemment, quoi qu'il y a bien des églises qui ferment et tout, mais il n'en demeure pas moins que cette culture-là religieuse qu'on a eue de nos parents, de nos grands-parents, je trouve aussi était déterminante pour beaucoup d'artistes. Dans le sens que, pour moi, la première représentation où il y avait une codification des choses, c'est la messe. Dans le sens que c'est pourquoi est-ce que le curé porte ça? Pourquoi est-ce que le monde s'habille? Les gars sont habillés en robe. Pourquoi, tu sais, il y a un Christ sur une croix qui est sanguignolant? Mm-hmm. Et j'ai souvent dit, c'était quoi tous ces lieux-là? Tu sais, Jérusalem, Bethléem, le Liban. Ils mangent du raisin puis des dattes. Tu sais, c'est comme... Alors, et des noms qu'ils faisaient, mais il n'y a personne... Ben, il y en avait quelques-uns qui avaient des noms d'évangile et de Bible, mais il n'en demeure pas moins que c'est qui Jézabel? Il y
avait exact,
le Jourdain, c'est comme... Tout ça était pour moi la première littérature. Mon premier rapport à l'exotisme et au code, ça a été la messe.
Mais je pense que c'est pas innocent le fait que je dise que j'avais publié dans le feuillet paroissial à toi. C'est pas du tout innocent.
Ah,
je sais
voulu,
à quel c'est tout est voulu. J'ai vraiment, écoute, tout est écrit. J'ai une liste. Non, pas du tout. J'improvise. Ça fait partie des skills d'un comédien. Mais en fait, je sais que ta dramaturgie est profondément marquée quand même par, pas le christianisme ou la morale, loin de là, mais par quand même cette imagerie-là du code, de la mise en scène.
Oui, parce que même à l'église, on va s'entendre, le prêtre, durant la messe, il y a des coulisses. Dans le sens qu'il disparaît puis il réapparaît. Il arrive d'un lieu qui est un lieu de, pour nous en théâtre, il arrive de sa loge.
Ben oui.
Alors, sa loge, ça s'appelle, lui, la sacristie. Alors que nous, ça s'appelle une loge.
Puis il y a du cœur, c'est l'homélie.
Puis il y a du cœur, puis il y a des chants, puis il y a tout un. Et c'est vrai qu'à quelque part, si on parle du théâtre et des origines du théâtre, on revient aux Grecs, qui ont quand même créé ça en interpellant les dieux. Alors, on donnait une représentation des dieux. Alors, c'est un peu ça
mais ce que je trouve fascinant...
Que l'Église a poursuivi.
Oui, puis ce que je trouve fascinant quand même, c'est que toi, je sais pas, t'es né en quoi?
Je suis né en
1917.
Sous le règne de Napoléon.
Victoria était encore au pouvoir. Mais non... Non, mais je disais, je suis né en 83 et quand même...
Ah,
moi, quand
tais-toi,
je...
malheureux!
Mais quand je parle à des amis de mon enfance ultra-catholique, ils sont complètement...
Mais toi, t'as pas connu ça, toi, la fête de Dieu, ces choses-là. Tu connais... Non, t'as pas
connu... Non, j'ai pas connu ça, mais j'ai quand même fait la Passion du Christ. Tu sais, je veux dire, j'ai fait Jésus, tu sais, avec... j'ai tenu le cierge pascal et j'étais excessivement valorisé, moi, quand même, dans... quand je lisais à la messe, puis je lisais à la messe à première vue. Donc, c'est ma première expérience de lecture à première vue comme acteur.
Et de Védétaria. Ouais, parce qu'être devant...
être devant.
L'assemblée, qui est un public, voilà.
Ouais.
Mais effectivement, c'est un premier rapport à la codification. Ça, je trouvais ça bien fascinant que tu as publié tes premiers poèmes dans le bulletin paroissial.
Oui, c'est ça. Je ne sais même pas pourquoi, en fait. Donc... Pour résumer ça, c'est que mon rapport au théâtre est vraiment lié à la poésie à la base et à la dimension sacrée même de...
C'est ça. Et dans ce que t'écrivais, tu parlais de quoi?
Mais je pense que j'étais moins dans la sincérité que là. En tout cas, j'ai l'impression que... Je sais pas si l'âge nous fait gagner de la sincérité, mais des fois, le premier geste peut l'être, mais il y avait une espèce de volonté romantique quand même. J'étais très conditionné par toutes mes lectures rimbaldiennes, etc. Je pense que je voulais montrer que j'utilisais tellement de mots savants. Là, alors que, à un moment donné, en ce moment, j'écris un roman parce que c'est un tout autre genre. Puis, je suis tellement dans une espèce de je sais pas, d'économie de direct, dans le storytelling pur. En fait, je pense moins à... Je pense moins aux mots qu'à la phrase, ou même moins à la phrase qu'au chapitre ou qu'au grand mouvement, enfin. Mais voilà, donc c'était la première question. Mais il y en a tout plein d'autres. Je suis curieux de t'entendre un peu sur la notion de dialogue.
Bien, je reviendrai encore. Je trouve qu'on n'a pas fini la première question. Non, elle est très large.
Bien, on pourrait vraiment faire deux heures là-dessus.
Là-dessus, c'est pourquoi on fait du théâtre. Moi, je pense
ben
que...
oui, ben oui.
Moi, j'ai même pas eu à le choisir. C'était là. Dans le sens que je n'ai même pas eu à dire « Ah, qu'est-ce que je ferai plus tard? » Non, il y avait comme une espèce de vocation sur laquelle il n'y avait aucun doute. Et mes professeurs me rappellent qu'à l'école primaire, je faisais des shows déjà. Fait que c'est comme... J'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est que le premier geste qu'on fait lorsqu'on se présente devant tout le monde, je pense, c'est une quête de lumière. Mmh. On veut être dans la lumière. Mmh. Et on a beau intellectualiser ça de toutes les manières, je pense que le premier geste, le premier besoin, c'est qu'on veut être aimé.
Ouais.
C'est une quête d'amour. Et je pense que c'est le premier geste, c'est pour ça qu'on le fait. Pourquoi il y a des gens qui se mettent à chanter devant du monde à 10 ans ou qui se mettent à jouer devant du monde à 10 ans. Ils ne sont pas encore en train de dire « ben je voulais réinventer la société ». Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est « aimez-moi ».
Mais quand je suis né sur une ferme, avec, il y avait toujours du monde chez nous. Il y a toujours eu énormément de gens à la maison. Puis j'étais très... donc, j'ai toujours eu une assemblée naturelle, moi. J'ai toujours eu... donc, j'ai toujours voulu exister, puis être aimé aussi, même par les parents, mais par l'assemblée, par le... Donc, je comprends très, très fort ce désir d'amour-là.
Puis surtout lorsque, en plus, dans le regard de l'autre, il est encouragé, parce que si personne s'occupe de ce que tu fais, ben c'est bien beau être en avant, ou debout sur une chaise, t'es en train de crier tout seul. Il n'en demeure pas moins aussi que finalement, tu peaufines... Tu raffines, comment je peux dire, c'est le...
T'éprouves le regard des autres,
t'es à l'écoute, t'es à l'écoute aussi du regard des autres, et si tu reçois cette espèce d'affection-là, ben...
Comment négocier avec,
travailler avec, comment... Alors moi, je pense que c'est un des premiers éléments, une des premières motivations au travail de l'artiste. J'ajouterais qu'il arrive, par contre, un moment donné, qu'un déclencheur, que tu comprends l'importance de ce que tu es en train de dire. Autrement dit, tu comprends la puissance des mots, tu comprends la puissance de tes questions et tu changes, en tout cas, moi dans mon cas, j'ai changé du tout au tout. Dans le sens qu'avant, je faisais plus au départ ce que j'écrivais, on s'entend. Là, ma première longue pièce, j'avais 14 ans pour faire une tournée régionale, c'est-à-dire 5 heures de Marie, l'Ascension de notre Seigneur et Saint-Henri de Taillon. Et puis s'il pleuvait, on ne pouvait pas tourner parce que c'était un camion avec pas de boîte. Alors, il n'en demeure pas moins que oui, c'est des comédies, tout ça. Mais à 18 ans, il y a une pièce où j'ai été plus personnel en posant des questions, finalement, à ma société. C'était une satire sur l'éducation des enfants. Et là, j'ai compris la puissance des mots, la puissance du théâtre dans la cité. C'est-à-dire de voir une espèce... d'osmose, je dirais pas d'eucharistie, mais une espèce de communication sainte-salle qui faisait que le spectacle se poursuivait après la représentation avec des questions. Et c'est là que j'ai compris, OK, il peut y avoir aussi au théâtre un poète, il peut y avoir un philosophe, il peut y avoir un sociologue.
Ça peut être le lieu de la pensée.
C'est le lieu de la pensée.
Ouais.
Et c'est encore pour moi un des rares lieux de la pensée dans l'agora. C'est-à-dire où les gens se réunissent dans une salle, il va faire noir, on accepte ensemble de faire silence et d'écouter une représentation. De comprendre qu'il y avait une puissance dans ma plume, qu'il y avait une puissance dans mon regard du monde. Autrement dit, j'ai laissé tomber un paquet de masques et je suis allé directement aux choses plus essentielles, en gardant toujours l'idée que une pièce de théâtre, pour moi... Je suis un dinosaure de ce sens-là, dans le sens que je suis un conteur. Et dans le sens, je vais raconter une histoire et je vais travailler structurellement à ce que mon histoire soit cohérente, même s'il y a des ellipses, même s'il y a des fragments, même s'il y a... Alors, mais tout en étant en harmonie avec ma vision du monde, ou du moins partager mes questions sur le monde avec le public et non pas y répondre. J'aime pas les shows de chiens savants, là. J'aime pas les shows de curés non plus. Ce qui fait que pour moi, c'est d'arriver avec ce regard très, très particulier que je pense, que je continue à travailler, qui est un peu champ gauche des fois, souvent, et qui fait en sorte quand même que je suis là pour l'amener jusqu'au public. Mais ça m'a transformé fondamentalement en me donnant une assurance et en sachant aussi à 18 ans que c'est arrivé avec une pièce dans les bras de Morphée Tanguay, qui était à Matane, m'a quand même aussi motivé à aller chercher des outils, c'est-à-dire aller faire des études en théâtre.
À Ottawa.
À Ottawa, parce que c'était le seul endroit à l'époque où il y avait une spécialisation en mise en scène. Il n'y avait pas ça ailleurs. Alors, ce qui fait que je suis allé à Ottawa, mais finalement, je n'ai pas fait la spécialisation en mise en scène. On a plutôt créé une espèce de cours en dramaturgie pour moi. Et je me nourrissais des auteurs étrangers, de ce qui se faisait de plus avant-gardiste. Et étonnamment, même j'étais à Ottawa, tous mes professeurs étaient européens. Ce qui veut dire que j'ai pas eu à m'en aller à Paris ou en Angleterre. Mes professeurs étaient majoritairement européens.
C'est comme, comme une espèce d'éducation
ben,
classique.
Si comme une île, autrement dit. Ben, classique, elle était quand même aussi...
Edgy. Là,
il était capable, ou absolument. Ouais. Il était capable de parler de tous les metteurs en scène contemporains. Même pour moi, c'était un choc, souvent. Mais n'empêche que j'étais vraiment au nirvana.
Puis est-ce que lorsqu'on écrit des dialogues, Jean-Michel Marc, est-ce que tu les écris à voix haute? C'est une question.
En tout cas, je les entends bien sûr dans ma tête, mais souvent aussi je vais les jouer chez moi, tout seul. Je trouve que c'est le paradis du schizophrène, dans le sens que si vous rentrez chez nous, puis j'étais en train de jouer une scène, en train de m'écrouler de pleurs en pleurant par terre, ben, il s'est rien passé, tout va très bien.
Mais d'où est-ce que tu pars? C'est une question que j'ai. En fait, est-ce que tu pars de... est-ce que tu as... un lieu, un conflit de base? Est-ce que, au contraire, parfois, tu as un court échange de répliques que tu
voudrais... Ça ressemble à ce que tu viens de dire, ouais. Beaucoup, c'est beaucoup ça, c'est très intuitif. J'aime pas que ça soit construit. Les pièces que j'ai tenté de construire sur papier, je les ai jamais écrites. Dans le sens que le voyage était terminé. C'était trop, la construction était trop évidente et c'était comme, ben, ça me tente plus, là, je l'ai faite.
Parce que t'es quand même un structuraliste.
Mais ça va venir en cours de route.
C'est ça.
Pour moi, il est important que j'ouvre mon chantier de construction, que je mette dans la cour arrière tous les matériaux que je pense que la pièce a besoin. Puis des fois, c'est pas seulement, comment je veux dire, donc, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui font ça. En roman, en nouvelle aussi, c'est que je vais accumuler des photos. Je vais accumuler des livres qui ont rapport à l'histoire que je veux écrire parce que, tout dépendamment de l'histoire, j'essaie d'aller chercher aussi le vocabulaire qui s'associe à l'histoire.
Ouais.
Comme exemple, on n'écrit pas Christine de Suède comme on écrit dans La nuit où Laurie Gaudreau s'est réveillée. C'est deux mondes.
Je pense pas, non.
Mais il y a quand même un monde que je dois aller... Le vocabulaire que je vais chercher, une musicalité.
Je veux dire, moi, je peux pas imaginer que tu les dis pas, tes répliques, parce qu'elles sont... très musical, mais même se sont punchés. Il y a des règles de trois, il y a des espèces de thèse, antithèse, synthèse. Je veux dire, c'est hyper construit. Je veux dire, c'est pas tout conscient.
Je faisais même quelque chose à une époque. T'as pas connu ça, peut-être, les imprimantes avec les feuilles à trous.
Ouais.
Au début, il y avait pas les feuilles. C'était des rouleaux avec des feuilles à trous, ces imprimantes.
J'ai connu ça quand même.
Et moi, j'avais un grand appartement et j'étendais toute la pièce, sur 3-4 lignes, et je regardais visuellement le rythme.
Ah oui, mon Dieu.
Je voyais visuellement, graphiquement, le rythme. Puis ça faisait, là, ça va pas, c'est rythmique. C'était visuel. Je m'arrive encore de le faire, là, mais j'ai plus mes feuilles à trous.
T'as plus de feuilles à trous. Voilà. C'est bien dommage, ça.
Toi, les dialogues...
Ah, moi, je l'ai dit tout à haut. Je dis tout ça à haute voix, ça, c'est sûr. Mais comme j'ai comme un rapport graphique. Tu sais, souvent, il y a des gens qui écrivent du théâtre, ils disent « Ah, c'est pas éthique ce que j'écris. » Ils font des retours à la ligne, tu sais. Moi, j'écris avec des retours à la ligne, mais tu sais, c'est lié à... J'aime beaucoup le rythme aussi, le biorhythme. Comme comédien, on n'a pas le choix aussi de penser au rythme. Je veux dire, c'est souvent une question de rythme.
Je pense que ça aide aussi qu'on ait joué.
Mais moi, je l'ai dit à haute voix, mes dialogues, mais j'ai un rapport même à la graphie, à la pensée cassée aussi. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, moi, comme auteur, l'échec, le moment où le personnage échoue, n'est pas capable de dire et bloque. Et ça, j'essaie de le trouver tout le temps. C'est peut-être 4 ans de psychanalyse qui ont fait ça, mais c'est le rapport à l'échec, à l'échec dans l'oralité, là. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais c'est pas une phrase, un sujet-verbe complément.
Il arrive au bout d'une articulation,
oui,
d'une
d'une idée, quelque chose de suspendu. C'est ça, la vie. Là. On n'est pas dans une trajectoire. On n'est plus là-dedans, dans cette phrase-là de Proust. On est dans une pensée cassée. Tout le temps, même Proust, en tout cas.
Moi, je trouve que l'un des plus grands défis, des fois, du personnage de théâtre, c'est de ne pas le juger. Je trouve ça... Parce qu'on va écrire, des fois, des personnages, on s'aperçoit qu'on est en train de les juger.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment... Il y a une marche arrière à faire.
Comment on fait ça? Comment toi, tu fais ça?
Ben, comme je viens de dire. Dans le sens que, probablement, il faut s'en rendre compte qu'on est en train de le juger. Mais... dans mon processus, il y a beaucoup de lectures, parce que j'ai la chance d'avoir mes castings environ de 2 à 3 ans avant, ce qui fait qu'il y a un cheminement avec les acteurs, qui fait qu'au début, ils sont face à un texte qui est vraiment un chantier. La cohérence n'est pas là, le parcours narratif n'est pas vraiment là. Je veux juste entendre, si on peut dire, la musicalité de ces personnages-là. Puis en même temps, ben, les acteurs vont imprégner leur voix dans ce qui n'est même pas écrit. Ce qui s'écrira.
Donc, t'écris pour des acteurs aussi, quand même.
De plus en plus. Le théâtre est une œuvre à trous. Il y a plein de trous.
Ouais.
Dans le sens qu'on écrit des répliques qui sont souvent le bord des deux rives.
Ouais.
Et que le travail de la représentation et de l'acteur, ça va être d'établir le pont.
Ouais.
C'est vrai,
c'est une bonne métaphore.
Quand une écriture, pour moi, est trop pleine, tout est trop dit, tout, je me dis, quelle est la place maintenant de la représentation? Parce qu'on pourrait le faire en lecture publique, puis je vois pas ce que la représentation ajoute. Tu peux me corriger ce que je dis? Tu peux être pas d'accord, mais pour moi, comme c'est bien important que, si on a compris, si on le sait, si on, laissons la possibilité et aux spectateurs de bâtir avec la représentation.
Ben, ça dépend du type de texte, mais oui, il y a des textes radiophoniques. Comment?
Je suis un dinosaure.
T'es un dinosaure.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, je dis, je suis très conteur. Je suis le conteur et j'ai envie vraiment que la salle soit complètement en communication avec une forme d'intrigue.
Mais moi aussi, dans ces termes-là, je suis vraiment un conteur, mais je cherche absolument... Mais toi aussi, tu cherches une langue, mais je cherche vraiment une langue... non naturaliste.
Ah, je comprends, absolument.
Avec des négations, avec quelque chose qui crée une friction entre le réel, le réalisme d'une situation. Je prends encore Céleste parce que tu sais, tu l'as vu aussi, mais il y a quand même quelque chose qui avance. Il y a des scènes.
Absolument.
T'es dans un plot, il y a un récit. Mais la langue crée une espèce de malaise, d'inconfort, d'imposture.
De distance, tu dirais?
Oui, mais qui fait, en tout cas, peut-être de distance, mais de... En tout cas, de sport chez l'acteur, qui est obligé de travailler, en tout cas, de trouver une façon d'incorporer ça, tu sais. Parce que sinon, moi, je veux transposer, puis très simplement, mais pas en trouvant des mots savants comme... non, c'est dans la structure de la phrase, dans l'interruption de la phrase. Je cherche quelque chose de... Je sais pas, peut-être que... En ça, je suis très inspiré par quelque chose qui n'est pas très à la mode, je trouve, chez les dramaturges dans les années 2020, mais de Daniel Danis ou de Normand Charette. Pour moi, c'est...
Comment tu les qualifierais pour nos auditeurs?
Merci. Oui, ben, Normand Charette puis Daniel Danis ont quand même marqué la dramaturgie des années 90 puis du début des années 2000 et avec un espèce avec un théâtre à texte, mais où le texte est une langue inventée, en fait. Exactement. Est presque une langue, et pas une langue, est très loin de l'oralité.
C'est une langue très construite.
Très, très construite. Et j'aime ça.
Qui ne vise pas à reproduire la langue normative, la langue réalité.
Non, exact, qui n'est pas du tout une langue normative. Là, qui peut même être dans le même élan que des Gauvreau du Charme.
Ouais.
C'est vraiment de la même ligne. De penser, là, tu sais. Tout est traduit dans plusieurs langues. Moi aussi, en anglais, en allemand. Moi, en allemand, ça marche fort. Mes premières pièces sur le genre, ça marche bien. Toi aussi, en allemand. Mais,
une quinzaine de langues, là, maintenant.
Ah ouais, c'est fou, quand même.
Ouais, c'est fou.
Puis toi, je sais que tu te promènes beaucoup. C'est parce que tu vas beaucoup voir, quand tu peux, là, des productions en Italie, un peu partout.
Tu te demandes... Ils sont pas là pour dire « Ah, wow, on monte une pièce québécoise. » Mais non, ils s'en tabarcent de ça. C'est pas ça. Ils montent l'histoire qui est là.
Ils sont pas dans l'exotisation des affaires. Là. C'est ça, c'est
alors,
ça,
je pense qu'effectivement, il y a les thèmes. Ouais. Je pense que c'est assez bien écrit. Je pense que... voyons, je commencerai pas à la jouer modeste.
Ben non.
Mais en même temps, l'histoire, les thèmes, les personnages rejoignent. Exemple, il y a beaucoup présentement de Tom à la ferme qui sont montés partout.
Ben oui.
Mais je trouve que les plus belles productions, les productions les plus fortes, sont lorsqu'elles sont faites avec une urgence, un besoin essentiel de la montrer, de montrer l'homophobie, alors que dans d'autres endroits, je trouve ça un peu plus complaisant. Comme exemple, je trouve les Feluettes, Je ne veux plus que ce soit monté en Amérique du Nord.
Ou tu dirais que les droits, par exemple, des homosexuels sont...
Monter Tom à la ferme au Brésil ou tomber...
C'est ce que j'allais dire.
C'est extrêmement périlleux. La production
du Brésil était...
Tom à la ferme en Ukraine, ça a été périlleux. Là. Ça a été même que le metteur en scène qui était... Pablo Ari, j'aime bien nommer les noms des Ukrainiens présentement.
Oui.
Il avait monté à Kiev et à Lviv, puis à Lviv, il s'est fait défoncer son appartement, puis s'est fait battre.
Ah oui.
Puis quand on a joué à Kiev, on avait une protection policière, dans le sens que tu vois que. Puis la mise en scène est extraordinaire. Et ça fait, lorsque c'est monté avec urgence, avec quelque chose d'essentiel, avec la pièce veut dire quelque chose à la société, c'est les plus belles mises en scène qu'il n'y a pas.
Je veux dire que je t'aime, Michel Marc, voilà.
Je t'aime, Dani.
Déclaration.
C'est à peu près le temps qu'on fasse quelque chose ensemble.
Ben oui, à un moment donné, ça va venir. Là.
Ouais.
Dans les semaines précédant cette rencontre, l'équipe du Salon du Livre a convié les jeunes de 18 à 29 ans à faire entendre leurs questions sur le métier d'auteur ou d'autrice. Comment ça se passe en coulisses l'écriture d'un livre? Comment on en arrive à être publié? Voici les questions qu'ils ont enregistrées pour nos invités.
Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Lévesque, j'ai 29 ans et ma question s'adresse au très talentueux auteur et acteur Dany Boudreau. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous passionne le plus entre vos deux métiers d'acteur et d'auteur et pourquoi? Merci beaucoup.
Ah, écoute, c'est facile de répondre à ça de manière courte et brève. Et là, c'est une grosse question. Je revendique beaucoup mon côté bicéphale, hybride. Je suis comme une petite voiture hybride. Je peux vraiment pas vivre. Un côté vampirise l'autre et je pourrais pas faire juste une chose. J'ai des modèles très importants dans ce milieu-là aussi qui sont comme des Évelyne Lachenelière, Robert Lalonde, qui sont vraiment des gens qui m'ont beaucoup appris, beaucoup aidé aussi et qui ont été des conseillers parce que c'est pas évident non plus de se faire une place dans ce métier-là qui est comme à l'image de la société, qui aime bien catégoriser. Là. Et se tailler une place comme acteur qui travaille, fait ça, et comme auteur aussi qui a une voix et un souffle et qui est pas... j'ai souvent été l'acteur qui écrit ou l'auteur qui joue. Mais ça, je trouve ça le fun en même temps.
Bonjour, mon nom est Alexandrine Levasseur, j'ai 27 ans. Ma question est pour Michel-Marc Bouchard. En fait, j'aimerais savoir par quelles étapes ou quel processus d'écriture vous passez pour arriver au résultat final de vos textes, donc depuis le moment où vous entamez un nouveau projet. Voilà, donc merci beaucoup.
Bonjour Alexandrine. Alors, le processus est un peu complexe et à la fois très simple, dans le sens que je pars d'une intuition. Et si cette intuition devient une obsession, c'est soit une image, soit un personnage, soit un état, même des fois un lieu qui devient obsessionnel ou une question. Alors, si ça dure pendant, je dirais, 2 mois, 3 mois...
C'est bon signe.
C'est bon signe, il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose à défricher. Alors, je me mets à défricher, mais d'une façon très intuitive au départ, dans le sens que, OK, je vais commencer à écrire des répliques. Je ne sais pas encore qui parle, je ne sais pas encore, mais je commence à construire tranquillement, pas vite. Et je dirais qu'après, mettons, on va donner un nombre, une quarantaine de pages, il commence à y avoir un univers. Et c'est cet univers-là que j'interroge à ce moment-là et que je me mets à construire.
Avant que Michel-Marc et Dany ne se quittent, nous leur avons demandé de nous partager une suggestion de lecture.
J'ai lu dernièrement le tableau final de l'amour de Larry Tremblay. Et ça m'a vraiment bouleversé. Je trouve que Larry touche au sublime dans ce roman-là, vraiment. Là. Je l'ai lu d'une traite, sans interruption. J'étais complètement happé, comme dans un trou noir. Un trou noir de bonheur, voilà.
Alors, Je vais parler d'un roman de Martin Talbot, « Cette confusion sera superbe ». Il fait référence à un poème d'Huguette Gaulin qui s'est immolé en 1972. Et le personnage principal, c'est un réalisateur qui veut justement, qui s'interroge sur ce personnage-là, et à savoir aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations sur son immolation, le fait qu'elle se soit elle s'est immolée avec le feu, par le feu. Bon. Alors, en même temps, il est en relation avec son frère qui souffre de maladie mentale très grave, mais comportementale, ce qui fait qu'il fait une espèce de parallèle qui est puissant entre ce qu'il veut réaliser, son frère, l'actrice qui devrait jouer, Huguette Gaulin, et un espèce d'aller-retour qui est très théâtral, cinématographique, et c'est un très, très beau roman.
Tout au long de l'année, le Salon du Livre offre à la promotion et à la démocratisation de la littérature. L'organisme entretient un lien privilégié avec les auteurs et les autrices de la région qui l'accueillent dès leurs premières incursions dans le milieu du livre. Lors de son événement de 4 jours qui se déroule à l'automne, le Salon a à cœur d'encourager la relève et de rendre hommage aux artistes accomplis.
À 15 ans, mon premier recueil de poésie, ben quand même, je l'ai lancé au Salon du Livre. C'était au Salon du Livre, c'était spécial quand même pour moi. C'était comme une reconnaissance, c'était de l'amour. C'était « Ah, OK, j'ai le droit de... » Je regardais les gens à leur kiosque, les auteurs, je disais, ben moi aussi, je m'en viens. je trouvais ça super.
Il y a une année, il y en aurait comme un auteur. Cette année-là, il y a plusieurs années, c'était moi. Et il nous remettait un livre relié, mais des lettres.
Oui.
C'est troublant parce qu'ils font une vraie recherche, trouver nos professeurs à l'élémentaire.
Ah, OK.
Encore, dans mon cas, je l'ai encore, mon livre. Puis tu sais, tout ça, c'est troublant. T'as toutes ces lettres-là qu'on te remet reliées.
Ah, mon Dieu.
Merci d'avoir écouté ce balado, réalisé grâce au soutien financier du Secrétariat à la Jeunesse du Québec. La série Écrire est une production conjointe du Salon du Livre et de Canopée Média, avec, à la réalisation, Sophie Gagnon-Bergeron, au montage, Mélissa Savoie-Soulière, à la narration, Bruno Paradis, à la prise de son, Jean-Philippe Archibald, et à la recherche et à la coordination, toute l'équipe du Salon du Livre, Raphaël Guillois, Sylvie Marcoux et Sophie Anaël Pilon. La musique est une création d'Emilio Donetti Bonneau, étudiant au Conservatoire de musique de Saguenay, avec Johan Jagère aux arrangements musicaux. Retrouvez les autres épisodes de la série sur salondulivre.ca. Et si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux.